Quelques mots avant la diffusion de Bernard Toinel. Elle va durer 60 minutes. C'est la rediffusion de l'émission de mardi dernier. Et précision importante, donc nous continuons cette série avec Bernard Toinel et des témoignages, dont Jean-Paul Lyon, Jean-Pierre Petit, etc. Ce prochain mardi soir à 23h20. Donc 60 minutes, la première heure d'intervention de Bernard Toinel sur Ici et Maintenant. Pour ceux qui n'ont pas tout entendu, la rediffusion sur Internet seulement, a lieu le dimanche entre 10h, le lundi matin, entre 10h et 14h sur le net, sur le web uniquement, entre 10h et 14h à partir de demain lundi. Voilà, belle écoute, à tout à l'heure.
June 24th, 2:59 p.m., 1947. Kenneth Arnold, while flying his airplane near Mount Rainier, Washington, saw his first flying saucers. This event not only changed his life forever, it also brought the news of the flying saucers to the world. What you are about to hear, only hours after it happened, is the actual radio news broadcast, with Kenneth Arnold telling of his incredible encounter. Sit back and listen to the true beginning of the flying saucer age.
Newscaster in every newspaper across the nation has made headlines out of it, and this afternoon we are honored indeed to have here in our studio this man, Kenneth Arnold, who we believe may be able to give us a first-hand account and give you the same on what happened. Kenneth, first of all, if you'll move up here to the microphone just a little closer, we'll ask you to just tell in your own fashion, as you told us last night in your hotel room and again this morning, what you were doing there and how this entire thing started. Go ahead, Kenneth.
Well, at about 2:15, I took off from Chehalis, Washington, en route to Yakima. And, of course, every time that any of us fly over the country near Mount Rainier, we spend an hour or two in search of the marine plane that's never been found that they believe is in the snow someplace southwest of that particular area. That area is located at about, its elevation is about 10,000 foot. And I had made one sweep in close to Mount Rainier and down one of the canyons and was dragging it for any types of object that might prove to be the marine ship. And as I come out of the canyon there, it was about 15 minutes. I was approximately 25 to 28 miles from Mount Rainier. I climbed back up to 9,200 feet, and I noticed to the left of me a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite, kind of weaving and going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. I at first thought they were geese because it flew like geese, but it was going so fast that I immediately changed my mind and decided it was a bunch of new jet planes in formation. Well, as the planes come to the edge of Mount Rainier, flying at about 160 degrees south, I thought I would clock them because it was such a clear day, and I didn't know where their destination was, but due to the fact that I had Mount St. Helens and Mount Adams to clock them by, I just thought I'd see just how fast they were going, since among pilots we argue about speed so much. And they seemed to flip and flash in the sun just like a mirror. And in fact, I happened to be at an angle from the sun that seemed to hit the tops of these peculiar-looking things in such a way that it almost blinded you when you looked at them through your plexiglass windshield. Well, it was about 1:01 when I started clocking them on my sweet second-hand clock. And as I kept looking at them, I kept looking for their tails. They didn't have any tails. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. And I turned the plane around and opened the window and looked out the window, and sure enough, I couldn't find any tails on them. And the whole observation of these particular ships didn't last more than about 2.5 minutes. And I could see them only plainly when they seemed to tip their wing or whatever it was, and the sun flashed on them. They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle. fly in a conventional formation that's taught in our army, they seem to kind of weave in and out right above the mountaintop. And I would say that they even went down into the canyons in several instances, probably 100 feet. But I could see them against the snow, of course, on Mount Rainier, and against the snow on Mount Adams as they were flashing, and against a high ridge that happens to lay in between Mount Rainier and Mount Adams. But when I observed the tail end of the last one passing Mount Adams, and I was at an angle near Mount Rainier from it, but I looked at my watch, and it showed 1 minute and 42 seconds. Well, I felt that, well, that's pretty fast, and I didn't stop to think what the distance was between the two mountains. Well, I landed at Yakima, Washington, and Al Baxter was there to greet me and saw up here. And he told me, I guess I better change my brand. but he kind of gave me a mysterious sort of a look that maybe I had seen something. He didn't know. And, well, I just kind of forgot it then until I got down at Pendleton, and I began looking at my map and taking measurements on it. And the best calculation I could figure out, now even in spite of error, would be around 1,200 miles an hour, because making the distance from Mount Rainier to Mount Adams, and we'll say approximately 2 minutes, it's almost, it'd be around 25 miles per minute. Now, allowing for error, we can give them 3 minutes or 4 minutes to make it, and they're still going more than 800 miles an hour, and to my knowledge, there isn't anything that I read about outside of some of the German rockets that would go that fast. These were flying in more or less a level, constant altitude. They weren't going up and they weren't going down. They were just simply flying straight and level, and I laughed when I told the pilot at Pendleton, they sure must have had a tailwind, but it didn't seem to help me much. But to the best of my knowledge and the best of my description, that is what I actually saw, and like I told the Associated Press, I'd be glad to confirm it with my hands on a Bible, because I did see it. And whether it has anything to do with our army or our intelligence, or whether it has to do with some foreign country, I don't know. But I did see it, and I did clock it, and I just happened to be in a beautiful position to do it, and it's just as much a mystery to me as it is to everyone else who's been calling me the last 24 hours wondering what it was.
Well, Kenneth, thank you very much. I know that you've certainly been busy these last 24 hours, because I've spent some of the time with you myself. And I know that the press associations, both Associated Press and our press, the United Press, has been right after you every minute. The Associated and United Press all over the nation have been after this story. It's been on every newscast over the air and in every newspaper I know of. The United Press in Portland has made several telephone calls here to Pendleton to me and to you this morning. And from New York, I understand they're after this story. And we may have an answer for it before night, because if it is some new type of Army or Navy secret missile, there would probably a story come out on it from the Army or Navy asking, saying that it is a new secret plane, and that will be all there is to it, and they will hush up the story, or perhaps that we will finally get a definite answer to it. I understand the United Press is checking on it out of New York now with the Army and also with the Navy, and we hope to have some concrete answer before nightfall. We certainly want to thank you, Kenneth, for coming into our studio. We feel very pleased that this news, which is making nationwide news across the country, we are able to give our listeners over KWRC a first-hand report direct from you of what you saw. And we urge our listeners to keep tuned to this station, because any time this afternoon or this evening that we get something on it on our United Press teletype, which is in direct communications with New York, Chicago, Portland, in fact, every United Press bureau across the nation, we'll have it on the air.
Bernard Twenel, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous rassure, auditeurs, vous êtes bien sur Radio Ici et Maintenant 95.2. On n'est pas planqué au fin fond du Texas. Quel accent. Mon Dieu, quel accent. Alors Bernard Toinel, que dire de vous, à part que vous êtes spécialisé depuis une vingtaine d'années dans les reportages et les enquêtes, je veux dire approfondies, hein, sur les ovnis. Vous êtes le rédacteur en chef de VSD hors série,
ouais.
Que vous y connaissez plutôt pas mal de ce côté-là, et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir. Moi, je vous propose, vu qu'on fait à peu près, on va dire en gros le même métier, sauf que vous bougez beaucoup plus que moi, et ça, vous allez pouvoir nous l'expliquer durant cette nuit, qu'on se tutoie.
Oui, sans problème.
On fait ça dès le début.
Bien sûr.
Très bien, Bernard. Tu vas bien?
Eh ben, autant que faire se peut.
Alors, Bernard Toinel, parler de toi, c'est pas très facile, mais que tu nous dises toi ce que tu fais exactement, ça me paraît mieux.
Depuis 20 ans, je suis journaliste aéronautique et j'ai surtout parcouru un peu le monde entier pour voler à bord non pas d'ovnis, mais d'avions de chasse ou je suis à bord de porte-avions ou je suis des fois à bord de destroyers. Enfin, moi, je fais un petit peu j'aborde les questions de défense. Alors, qu'est-ce que je viens faire dans cette galère en ce qui concerne les ovnis? Ben, on va y revenir un peu plus tard, hein, parce que je voudrais déjà revenir un petit peu sur le document exceptionnel que tu viens de passer, parce que il s'agit bien d'un document exceptionnel. Il s'agit d'une interview qui a été donnée par Kenneth Arnold, le fameux pilote qui a vu et qui a donc rapporté le 24 juin 1947 avoir vu des engins extraordinaires qu'on n'appelait pas encore OVNI et qui ont traversé le ciel devant lui à une vitesse absolument faramineuse. Et là, il était interviewé par un journaliste qui s'appelle Ted Smith. Et sur une radio locale de Pendleton, dans l'Oregon, le 26 juin 1947, c'est-à-dire 2 jours après son observation. Et ce document, on le doit, je lui rends hommage parce que c'est quand même la personne qui l'a découverte, c'est le sociologue Pierre Lagrange, qui a découvert ce document lorsqu'il avait fait une enquête sur justement Kenneth Arnold. Il a trouvé ce document qui était, je crois, sous forme de disque gravé dans une armoire. Alors, je pense que ce document est véritablement le premier interview, le premier témoignage d'un pilote qui a vu des ovnis.
À cette époque-là, les journalistes pouvaient encore se permettre de parler de ces sujets-là à la radio sans être taxés d'illuminés, on va dire, ou de personnes voulant faire de l'audience?
Bon, je crois qu'il n'y avait pas ce problème qui se posait, parce que je crois qu'en fait, dans un premier temps, on avait surtout la découverte du phénomène. Il y avait pratiquement personne qui savait ce qu'était une soucoupe volante ou un disque volant. On était vraiment dans une période de découverte. Bon, je dirais que le journaliste lambda faisait son travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour l'affaire Kenneth Arnold? C'est tout simplement une médiatisation d'une observation. C'est pas une observation exceptionnelle au sens propre du terme. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de radar, il n'y a rien. Mais seulement une médiatisation. C'est à partir de cet instant que le public a eu connaissance, sur une large échelle, de l'existence du phénomène OVNI et des soucoupes volantes, parce que à l'époque on ne parlait pas d'OVNI, hein, et il faut parler de disques volants ou d'avions non conventionnels, enfin de choses bizarres qui traversaient le ciel et qu'on ne savait pas identifier finalement.
Et c'est le genre de document qui a dû donner des idées aux scénaristes hollywoodiens, qui ont commencé à laisser germer des fantasmes, hein, de personnages venus de l'espace, qu'ils ont pu faire exploser quelques années après.
Tout à fait, mais je dirais que le vrai, on était véritablement au lendemain de la fin de la dernière guerre. Je crois, c'était une période un petit peu de transition, on sortait de la guerre, et les gens voulaient un petit peu s'évader. Et quand ce sujet est arrivé un petit peu à point nommé, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc en fait, les médias ont sauté dessus, c'est nouveau, c'est chouette, c'était presque de l'Amazing Stories, hein, c'était un magazine qui était très en vogue à l'époque, et d'ailleurs, on a souvent dit que finalement, les témoins trouvaient un petit peu leurs idées, leurs observations dans la reprise un petit peu de ces pulp fictions magazines, qu'on appelle, et c'est vrai que finalement, lorsqu'on reprend les choses, ça n'avait rien à voir avec de la science-fiction. Là, on n'était pas dans la science-fiction, c'était la réalité.
Alors, on va, avant d'aller plus loin, parce que là, ça y est, on est parti, on va s'attarder quand même sur le témoignage de Kenneth Arnold.
Bien sûr.
Qu'a-t-il dit exactement?
Bon, d'abord, c'est le journaliste Ted Smith lui demande d'abord que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, disons qu'il y a un grand sujet qui fait la manchette de tous les grands quotidiens, et quand je dis les grands quotidiens, c'est vraiment tous les États-Unis, parce qu'il s'agissait à l'époque d'une véritable vague. On peut dire presque d'une invasion. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup... Non, mais c'est vrai, le ciel était envahi de choses bizarres, et c'est vrai que ces objets volants non identifiés, ces disques volants, faisaient vraiment la une des journaux. Et finalement, on commençait à prendre l'affaire au sérieux, on a pris l'affaire au sérieux à partir de cette médiatisation. Et c'est Kenneth Arnold qui s'exprime. Donc il répond au journaliste Smith et il raconte ce qui lui est arrivé. Et ça s'est passé donc le 24 juin. Il disait que vers 2h15, il a décollé. C'était un pilote privé, c'était aussi un businessman. En fait, il se baladait dans la région nord-ouest des États-Unis pour faire son boulot. Et il a, en guise de voiture, il avait un avion qui était un Call Air. Et c'était très rare d'avoir un avion privé à cette époque-là. Et c'était un avion qui avait une particularité, il était tout terrain, il se posait n'importe où. Alors il allait voir les gens qui étaient un peu isolés, ce qui était assez remarquable pour l'époque. Et puis, disons qu'un jour, il avait décidé de faire une recherche. En fait, c'était pas une recherche comme ça à titre gracieux. Il voulait récupérer une prime parce qu'il y avait un avion de la Navy ou de l'US Marine Corps qui s'était écrasé du côté de Mont-Rainier. Et évidemment, il y avait une prime à celui qui retrouvera l'épave. Et c'était dans cette optique-là, alors on y patrouillait. Il faisait le tour des montagnes, et puis d'un seul coup, il se trouvait vers 3000 mètres, il venait justement d'inspecter les canyons, et puis il essayait de voir ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à une épave. Et puis d'un seul coup, à peu près au bout d'une quinzaine de minutes, il était, comme il dit, entre 40 et 48 kilomètres du Mont-Rainier, il a grimpé jusqu'à 2000-3000 mètres, puis il a repéré... Il a pensé que c'était des cerfs-volants au départ. Et puis après, il dit, mais c'est pas possible qu'un cerf-volant puisse aller aussi vite. Et ensuite, après, il a dit, bon, c'est des voies sauvages. Enfin, il a vu quelque chose, mais il essayait de faire ce que... On y reviendra, de voir et d'approcher ce que les pilotes... Toujours de rapprocher de quelque chose qu'on connaît. Et là, il essayait toujours de rapprocher. Il n'arrivait pas. À trouver une référence. Et alors il parle d'oies sauvages. Il dit mais ça va quand même trop vite pour aller des... c'est pas possible. Donc il s'est dit alors ça doit être des nouveaux jets, nouveaux avions à réaction de l'Air Force qui viennent d'entrer en service. Mais le problème c'est que ça allait trop vite et puis en plus ça sautillait. Donc c'était pas comme un avion, c'était pas rectiligne comme trajectoire. Ça sautillait un petit peu comme ça lui semblait bizarre. Alors, ce qui lui a fait attirer l'œil aussi, c'était clair, métallique. Cette réverbération qui lui a attiré tout de suite l'œil. Et lui, comme un bon pilote avisé, il a commencé à chronométrer. En prenant en référence les distances entre le Mont-Rainier et le Mont-Adams, et il savait la distance qu'il y avait entre les deux. Et là, c'était quand même énorme. Et ça semblait sautiller, la lumière du soleil se reflétait, c'était quelque chose de métallique. Mais encore beaucoup plus étonnant, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, j'ai cru que c'était une réverbération dans mon pare-brise, donc j'ai ouvert le pare-brise de mon cockpit. À l'air libre, pour voir si vraiment c'était quelque chose à l'extérieur, c'était pas une réverbération, c'était pas un reflet. Donc, il a eu un excellent réflexe. Et entre le Mont Saint-Hélène et le Mont Saint-Hélène et le Mont Adams, il savait, il connaissait la distance, il dit qu'il devait être à peu près 14h59, il est très précis dans ce qu'il dit. Hein. Et puis bon, il rigole parce que il dit, on aurait dit comme des avions sans queue. Alors ça pouvait pas être des avions. Et c'est ça qui commence. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste au fur et à mesure de son interview et de son commentaire...
À la déduction d'un...
Absolument. Ouais. Et il en rit d'ailleurs, parce que il dit, c'est pas croyable. Je peux pas croire ce que j'ai vu. Donc il est très franc. Il commence, si tu veux, à décrypter son propre témoignage. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il analyse en direct à la radio son observation. Alors... Il dit, mais c'est quand même bizarre, parce que cette observation a duré près de 2 minutes et demie. C'est à la fois très court et c'est à la fois très long. 2 minutes et demie, c'est très très long. Mais les engins qui reflétaient, ça ressemblait à des pelles à tarte. C'est-à-dire, on voit des pelles à tarte qui volent dans le ciel, on se demande ce que c'est. Hein. Et je crois que là, il dit, mais il y en avait un qui était coupé par la moitié... comme une sorte de triangle convexe à l'arrière. C'est ce qu'il explique. Et puis il repense, il dit ça pouvait être que des avions en réaction. Et finalement, il essaye toujours de rapprocher ça de quelque chose qui existe. Il ne veut pas croire. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il a vu? Et il raconte que ces objets paraissaient osciller juste au-dessus des montagnes. Ça vraiment, ça frôlait à 33 mètres. Mais c'était impensable de pour lui que c'était des avions. Parce que 33 mètres au-dessus des montagnes, l'équipe devait être soit complètement bourrée, soit complètement, marteau, quoi. Il fallait être vraiment des pilotes complètement dingues pour réaliser une telle prouesse. C'était vraiment du pilotage de qualité. Donc lui, le juge, en termes de pilote, dit « ces types-là étaient extraordinaires ». Mais il ne sait pas ce que c'est. Il continue. Là. Alors il décrit toujours. Il dit, il regarde sa montre. Il chronomètre toujours. Et c'est ça qui parce que sa référence, c'est la vitesse d'un avion normal. La vitesse d'un avion normal, c'est pas des milliers de kilomètres heure. Or là, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais si je prends la carte, les distances, j'arrive, en tenant compte des vents, j'arrive à une vitesse effarante de 3200 kilomètres heure. Or, il n'y avait aucun avion. Aucun. Même des plus nouveaux prototypes de l'époque, les derniers prototypes, il n'y avait aucun avion qui était capable d'aller à 3200 km/h. On était à peine capable d'atteindre le mur du sang, c'est-à-dire à peu près 1100 km/h. Donc c'était quelque chose, lui il croyait qu'il s'était trompé. Et puis il disait, bon, c'est une question de distance, peut-être qu'ils sont très près, peut-être, mais c'est pas possible que ça aille à 3200 km/h. Et il essaye toujours. Il dit, c'est peut-être des fusées allemandes. Il en parle. Il dit, il continue à rire parce qu'il y a, si tu veux, un rejet de son témoignage. C'est effarant. On commence à comprendre, effectivement, que les gens qui voient des ovnis ne croient pas ce qu'ils voient.
Excuse-moi, mais ovni, à part le mot, ça veut dire quoi, ovni?
Ben, dans le grand public, le mot, l'acronyme OVNI, c'est objet volant non identifié. En fait, ça peut être tout. Ça peut être tout, n'importe quoi.
Ça peut être une assiette lancée qu'on ne reconnaît pas dans le ciel. Ça peut être strictement tout à partir du moment où on ne l'identifie pas.
Ça peut être un météore, ça peut être un phénomène, d'accord, si tu veux, qui n'est pas connu. Ça peut être un prototype secret, ça peut être un missile. C'est quelque chose qu'on n'a pas identifié par définition. Donc, on n'a pas donné un nom, on ne sait pas ce que c'est. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est ça qu'il faut, bien comprendre. Et pour Kenneth Arnold, lui, ça a été sa première réaction, c'est-à-dire de ne pas y croire. Et on le voit au travers de cette... C'est pour ça que c'est très bien que vous ayez diffusé cette interview historique, car cette interview démontre, en fait, que on a vraiment l'exemple type d'une observation où le gars se remet en question. C'est un excellent pilote, il a des réactions, il calcule, et un rejet de ce qu'il a vu. C'est-à-dire que pour lui, il demande qu'à avoir une explication rationnelle, il ne l'a pas, et on le sent très bien parce qu'il fait des retours, des flashbacks, il dit ça peut pas être des oies sauvages, ça peut pas être des avions de l'armée, alors qu'est-ce que c'est? Et là, on a le journaliste Ed Smith qui lui dit vous ne savez pas, parce que Kenneth Arnold dit à la fin, il prétend qu'il a plein de gens, énormément de gens, l'ont contacté durant ces 24 dernières heures, parce que justement, il avait été le premier à médiatiser cette affaire, et il a rapporté son témoignage auprès d'agences de presse. Et c'est ces agences de presse qui ont dit, qui ont rapporté et qui ont décrit que c'était comme des soucoupes qui auraient ricoché sur l'eau. C'était là, l'impression que ça donnait. Ce n'est pas Kenneth Arnold qui a désigné ce qu'il avait vu comme des soucoupes volantes. C'est donc bien Kenneth Arnold qui a rapporté ce qu'il avait vu. Ce sont les journalistes qui ont donné le terme soucoupe, qui ont rapporté, en fait, que ça ricochait sur l'eau, mais en aucun cas, c'est Kenneth Arnold directement qui l'a fait.
Mais ce qui est quand même assez incroyable de la part de Kenneth Arnold, c'est qu'il s'est battu contre son éducation, contre tout ce qu'il savait jusqu'ici, pour au moins accepter ce qu'il avait vu, et il a réussi à en parler aux médias. C'est assez incroyable. Le journaliste qui l'a interviewé était lui aussi déjà intéressé par le sujet, pour avoir réussi à le convaincre de témoigner sur son antenne.
Je crois que les journalistes, moi je fais partie justement de ce milieu professionnel, donc je peux en parler en connaissance de cause, les journalistes essayaient en fait de savoir, comme d'en connaître un peu plus sur le phénomène. Et d'ailleurs, il le dit à la fin, ils ont envoyé des dépêches partout, ils ont envoyé des communiqués de presse partout, pour avoir au moins un semblant d'explication auprès des autorités militaires, en leur demandant si, par bonheur, est-ce que ça serait pas un missile secret qui serait égaré, parce que c'est vrai que la région était tout à fait propice. Il y avait la base de Muzjoz qui est encore actuellement un terrain d'essai qui est occupé par Boeing. Donc, c'est pas étonnant de voir des engins bizarres voler dans le coin, mais pas à 3200 km/h. C'est ça le problème, parce que les seuls engins qui pouvaient voler à 3200 km/h, c'était des fusées. C'était les V2, c'était ces engins-là. Et là, à la fin, il dit, bon, bah, on espère avoir une explication, un communiqué officiel de la part de la marine, de l'US Navy ou de l'Air Force. Et puis, il n'y aura rien.
Il n'y avait pas de traces, hein, du tout.
Non, c'est ça le problème. C'est que Kenneth Arnold avait vu quelque chose qui n'appartenait pas à l'US Air Force, enfin à l'US Army Air Force à l'époque, et à l'US Navy.
En tout cas, pas officiellement.
55 ans après, on en est toujours au même point.
Kenneth Arnold, c'est le premier témoignage de pilote.
Absolument. Oui.
C'est le premier.
Oui. C'est le tout premier. C'est celui qui a été médiatisé et c'est,
Tout pays confondu, c'est.
Oui, tout pays confondu, c'est celui qui a véritablement lancé l'affaire des soucoupes. Je pense que c'est parce qu'il était pilote et qu'il était crédible qu'on a pris en cause, le témoignage de Kenneth Arnold. Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, il n'y aurait pas eu un tel impact.
Dans les mythes populaires, avant ce qu'a décrit Kenneth Arnold, est-ce que des gens ont parlé vaguement d'apparitions, de choses vues? Est-ce que avant ce que disait Kenneth Arnold, est-ce que des gens en parlaient? Est-ce que déjà c'était une sorte de fantasme?
Non, c'était pas un fantasme. On peut dire à l'heure actuelle, d'après les documents qu'on a retrouvés longtemps après, que finalement, les autorités militaires commençaient à savoir, commençaient à deviner, hein, et dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on peut le dire, et surtout en 1946, où là, juste après les expériences de Bikini, les expériences nucléaires, atomiques de Bikini, là, on a eu la vague des fusées fantômes en juillet 46, entre avril et juillet 46.
Bikini, les fusées fantômes, c'est quoi exactement, en tout cas?
Bah, Bikini, c'était les essais, les premiers essais à grande échelle de nucléaire. Et là, on jouait aux apprentis sorciers, on savait pas ce que c'était. À part les explosions, je dirais, de Hiroshima et Nagasaki, il y avait quand même une ignorance des effets secondaires. On savait pas. Ils ont joué aux apprentis sorciers. Et puis, il fallait aller de l'avant. Et puis, fallait aussi démontrer la puissance américaine. Donc, on a fait la grande opération Bikini, en fait, qui s'appelait l'opération Crossroads. Hein, et là, je crois que c'est juste après qu'il y a eu cette fameuse vague de fusées fantômes, qui ne correspondait pas tout de suite, je dirais, une observation d'engins expérimentaux. Parce que bien évidemment, on a pensé aux Russes. On a dit ça y est, ils ont récupéré les savants allemands et ils font.
On devait beaucoup regarder le ciel à cette époque-là.
Ils ont toujours regardé le ciel. De toute façon, à partir du moment où on avait des avions, des bombardiers qui commençaient à aller très loin, on regardait le ciel, on regardait ce qui venait du ciel. Puis de toute façon, on a toujours, observé le ciel. Non, ce qui était beaucoup plus étonnant, c'était cette vague. Parce que ça se passait pas par l'opération du Saint-Esprit. Cette vague était véritablement causée par quelque chose. Il y avait une raison à cela. Et bien évidemment, la concordance avec les dates des expériences de Bikini ont tout de suite sauté à l'esprit des gens responsables au Pentagone. Et à l'époque, c'était pas encore le Pentagone. Enfin, bon, disons que c'était le Department of War, le département de la guerre. Et tout de suite, on a pris l'affaire au sérieux.
N'en ont pas parlé.
Pas officiellement, mais les messages circulaient entre les ambassades.
Déjà officieux, déjà un sujet dont on ne parlait pas ouvertement.
Oui, parce que à l'époque, on avait quand même un soupçon, c'est les Russes. L'invasion communiste, c'était le ça commençait à être la guerre froide. Il y avait quand même les prémices de la guerre froide. Et dès 1946, on a envoyé des gens quitter en Suède, parce que cette vague de fusées fantômes s'est déroulée en partie en Scandinavie, il y en a eu en Grèce, mais ça s'est quand même concentré en Scandinavie, au moment, et c'est ça qui est intéressant, au moment où la flotte américaine, qui avait justement réalisé les manœuvres de Bikini, revenait. Donc c'est pas le fait du hasard.
Alors, on a appelé ça vague de fusées fantômes, pourquoi ? Quelle était la forme
Les fusées fantômes étaient des espèces de fusées. Ça ressemblait à des fusées. Par contre, ça n'avait pas un comportement de fusée. Ça volait. À l'heure actuelle, on n'aurait pas appelé ça des fusées fantômes, on aurait appelé ça des ovnis, tout simplement. Mm-hmm. Mais il fallait lui donner une qualification. Il fallait lui donner un acronyme. Donc, on a pris fusées fantômes. On a parlé d'avions fantômes à un moment. Il y a toujours eu, si tu veux, des expressions qui étaient employées au moment, à l'époque, des témoignages. On a appelé ça les fusées fantômes parce que c'est vrai qu'on savait pas d'où elles venaient, qui les envoyait, et en fait, c'était pas du tout des fusées. Ça explosait, il y en avait qui explosaient, il y avait des débris qui retombaient dans des lacs, et puis les Américains se sont dit, mais attends, c'est pas possible, c'est quand même loin d'être idiot, et on va dépêcher une mission, et on va envoyer le général Doolittle, et alors on l'a pas envoyé avec son uniforme, hein. On l'a envoyé en civil. On l'a envoyé en Suède. Et on a dit au général Doolittle, je rappelle que c'était le grand pionnier de la politique, de la stratégie de bombardement au sein de l'US Army Air Force. C'était l'officier qui s'était occupé d'envoyer les bombardiers B-25. Bombardier le Japon, 30 secondes sur Tokyo, hein. C'était lui, et à partir du porte-avions Hornet, donc c'était quelqu'un qui était à l'image de l'Amérique un héros, et c'était aussi quelqu'un de très qualifié. Donc on les a envoyés vraiment le type qui était qualifié, qui pouvait un petit peu demander aux Suédois, c'est quoi, c'est qui, c'est les Russes, et quand il est pas parti tout seul, il est parti avec d'autres officiers. Ils sont allés là-bas, en Suède, entre autres. Ça, on l'a à partir des archives. Hein. Il est revenu, il a fait son rapport. Il savait pertinemment que c'était pas les Russes, que c'était pas les Allemands, que c'était pas les Chinois. Il n'y avait aucun pays qui avait mis au point ces types d'armement ou ces fusées fantômes.
Fusées fantômes, Kenneth Arnold, est-ce que ça a délié les langues? C'était en 1900, donc l'affaire Bikini, juste après...
46.
46, Kenneth Arnold, c'était 40... Kenneth Arnold qui parle sur la
question. C'est le 26 juin 1947 pour l'interview.
Alors, 1947, est-ce que là, dans le monde entier, on a commencé à parler de choses qu'on avait vues, mais que jusqu'ici, on gardait pour soi de peur d'être traité de fou?
Bah, disons qu'à l'époque, on n'était pas... porté sur la chose, si je puis dire. On n'avait pas du tout de... Il n'y avait pas de d'idées ou d'idéologie. L'ufologie n'existait pas. Donc, les gars qui voyaient, ou les gens qui voyaient des choses dans le ciel, n'étaient pas, qualifiés de fous, d'allumés. C'était quelque chose de nouveau.
Ils étaient touchés par la grâce, en quelque sorte.
Je pense pas que c'était comme non, je crois pas. Mais il y avait quand même, je dirais, un nouveau phénomène qui apparaissait. Et puis ma foi, je crois que les témoins parlèrent spontanément. Je veux dire comme s'ils avaient vu quelque chose de. On n'en était pas au stade de la légende, des farfadets ou du monstre du Loch Ness. Mais c'était quelque chose de nouveau, qui pouvait être, je dirais, scientifiquement explicable, militairement explicable, au moins, il y avait une réponse à une question. Et la réponse, ben, on l'attend toujours.
Des années après, il a dû l'emporter dans sa tombe, la question, Kenneth Arnold.
Oui, je crois. Ouais. Je crois, parce qu'en fait, ça a été véritablement son idée fixe. D'ailleurs, on peut dire que dans les premiers temps, il a laissé tomber un peu son business pour travailler en tant qu'enquêteur pour l'éditeur Ray Palmer. Hein, et Oui, parce que autant qu'à faire, on prenait un enquêteur comme Kenneth Arnold. Ça pouvait. Ray Palmer n'était pas un idiot. Hein, c'était un. Il avait, je dirais, visé un bon filon. Hein. Ray Palmer, ça c'est, je dirais, ils se connaissaient pas. Hein, ils s'étaient jamais rencontrés. Et ça s'est fait au téléphone, en gros, au début. Et Kenneth Arnold, est-ce que vous voulez bien travailler pour moi? Et Kenneth Arnold a dit, oui, il n'y a pas de problème, vous remboursez mes frais. Et voilà Kenneth Arnold qui part enquêter sur d'autres affaires d'OVNI. Alors là, il a rencontré un autre pilote, qui lui était le premier pilote de ligne, qui lui a rapporté l'observation d'OVNI, juste quelques jours après Kenneth Arnold.
Alors on va y venir dans quelques instants. J'aimerais juste qu'on s'arrête un instant sur ce qu'a dit Kenneth Arnold, sur les médias américains qui ont relayé l'information un petit peu partout. Toi qui as étudié le sujet, donc l'Amérique à cette époque-là, est-ce que ça n'a pas créé, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais est-ce que ça n'a pas créé une vague religieuse assez incroyable aux États-Unis? On parle de choses qui viennent de l'espace, nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus qu'une seule planète. Il y a peut-être quelque chose dans le ciel qui vient d'ailleurs. Il n'y a pas eu de retombée religieuse et une sorte de veto de l'Église sur ce sujet?
Pas à ma connaissance.
D'accord.
Je crois qu'il y a eu effectivement une réaction. Non, en fait, tout simplement, les gens ne savaient pas ce que c'était. On était tous dans le flou absolu. Hein.
Justement.
C'est ça. Il y avait pas. Je crois qu'il n'y a pas eu de réflexe religieux. Mm-hmm. On a cru tout de suite. Il y avait eu quand même des précédents pour la Deuxième Guerre mondiale. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y avait le phénomène des Foo Fighters, hein, non pas du groupe de rock bien connu, qui ont eux-mêmes emprunté le nom à ce phénomène. En fait, le Foo Fighters, c'était des boules de lumière, hein, le plus souvent, qui évoluaient autour des bombardiers. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les bombardiers alliés étaient quelquefois, je dirais, entourés de ces boules de lumière. Mais c'est que les gens d'en face aussi, c'est-à-dire les Allemands, les Japonais, avaient exactement les mêmes choses. Donc, réciproquement, tout le monde pensait que c'était l'arme secrète de l'adversaire. C'est extraordinaire. Et c'est qu'à seulement après la guerre, qu'ils se sont aperçus que finalement, ces boules de lumière n'appartenaient à personne.
Les fameux Foo Fighters. Alors donc, Kenneth Arnold commence à enquêter. On va essayer de faire ça dans un ordre chronologique. On part donc de 1947, on s'est attardé sur 1946. On est juste après la Deuxième Guerre mondiale. La guerre froide commence à peine. Il semblerait que les États-Unis soient en quelque sorte précurseurs sur ce sujet. Pourquoi est-ce que, peut-être parce qu'ils s'y sont intéressés avant les autres. Et puis après, le futur nous dira qu'il va encore se passer pas mal de choses sur leur territoire. Donc Kenneth Arnold commence à enquêter et il se rend compte qu'il y a d'autres cas, d'autres sujets.
Oui, parce que la même année, il y a eu ce qu'on a appelé, ce qu'on ne savait pas encore, ce que maintenant on appelle ça un phénomène de vague, c'est-à-dire un phénomène de concentration d'observation dans une zone géographique donnée. Ça peut être très large, mais ça peut être également dans le temps. C'est-à-dire une vague, c'est vraiment une invasion, entre guillemets. C'est quelque chose qui est répétitif. Donc tout le monde voit à peu près la même chose. Dans le même laps de temps, dans les mêmes semaines, dans les mêmes mois. Ça peut durer extrêmement longtemps. Ça peut durer un an, deux ans. Une vague, c'est véritablement quelque chose de non pas de reproductible, parce qu'on ne sait pas produire ça. Par contre, répétitif, oui. Et on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, ce qu'on savait en 1947, et ce qui a un petit peu inquiété les militaires américains, c'est, on s'en est aperçu très rapidement. Et ça, dès 1947, mais aussi en 1948. C'est dès l'instant qu'on a commencé à parler de l'affaire de Roswell. Parce que ça aussi, il faut en parler.
Quelle année, Roswell?
Alors, c'est la même année. C'est quelques jours après. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a une concentration dans le temps et dans l'espace des observations OVNI. Et ça se déroule en quelques heures. C'est un peu ça. Parce que, c'est en quelques jours, c'est vraiment une folie qui gagne l'Amérique. Alors, l'Amérique, pourquoi l'Amérique? L'Amérique, c'est normal. L'Amérique, c'est le pays qui est quand même sorti victorieux de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'était aussi le pays le plus en avance. technologiquement. C'était le pays qui s'était doté de l'arme de la bombe atomique. C'était le pays qui regroupait la plupart des savants. Le projet Manhattan, c'était quand même une opération qui avait été menée quand même tambour battant dans le plus grand secret.
Oui, le projet Manhattan.
Oui, le projet Manhattan qui a abouti à la fabrication de l'arme atomique. Little Boy et Fat, je sais plus comment. Mais bon, je crois que c'est fondamentalement le début. Le pays visé, ma foi, ne m'étonne pas, parce qu'en fait, c'était la locomotive du monde. Hein. Et donc, si on devait effectivement essayer de jouer avec un pays sur la planète, c'était les États-Unis. C'est évident.
Alors, Roswell, c'est le fameux ballon météorologique qui a trompé tout le monde? Non, c'est pas vraiment ça. Il y a eu d'autres choses. J'aimerais qu'on fasse un point sur cette affaire de Roswell, parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a pas mal d'histoires de contes. Moi, j'appellerais ça presque des contes maintenant sur Roswell. On nous a parlé d'autopsie filmée en direct. On nous a parlé de beaucoup de choses à propos de Roswell. On peut voir des séries télévisées où ça revient en permanence. Je sais pas, parlons d'X-Files, pourquoi pas. C'est quoi exactement Roswell? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Vaste programme. Parce que effectivement, lorsqu'on prend l'affaire Roswell telle qu'elle arrive, d'abord, c'est quelques heures l'affaire Roswell. C'est un communiqué de presse qui est signé par un certain colonel William Blanchard, que tout le monde découvre, que personne ne connaît, parce que William Blanchard, à part les intéressés dans le, je dirais, au sein de l'escadre de la 509e escadrille de bombardement, bah, il y a personne qui le connaît. Donc on voit apparaître.
Roswell, c'est la zone 51.
Ah non, ça n'a rien à
ça
voir.
Ça n'a rien à
non,
voir.
Non, ça n'a absolument rien à
alors,
voir.
Roswell, c'est devenu une base militaire depuis.
Ah mais Roswell était une base militaire au départ.
Voilà. S'arrêter déjà là-dessus, dire voilà. Que c'était une base militaire.
Voilà, c'était une base, c'était pas n'importe quelle base militaire, c'était la base qui abritait la première escadrille de bombardiers atomiques B-29, super forteresse, et ça s'appelle les super forteresses volantes, qui avaient bombardé le Japon, et ils étaient basés là. Donc il y avait une escadrille, je crois qu'il y avait à peu près une trentaine d'avions là-bas. Et donc, effectivement, Roswell était la base des premiers bombardiers atomiques au monde. C'était pas n'importe quelle base.
Et alors, sur cette base, il s'est passé quoi exactement? Il y a un engin qui est tombé du ciel?
Alors, c'est là où on commence un petit peu à savoir ce qui s'est passé.
Parce que là, on rentre dans ton... je me permets d'interrompre une seconde avant que tu ne développes. Oui. Là, on rentre exactement dans ce que tu aimes faire dans tes investigations, c'est-à-dire te baser sur des faits et sur surtout des personnes crédibles, dignes de confiance, qui ont parlé. Même si après, on en pense qu'on veut. Mais là, il y a des rapports, il y a des textes.
Alors, il y a très peu de textes en ce qui concerne l'affaire Roswell, proprement parlé. Maintenant, on commence un petit peu à cerner la date. En fait, ce qui est incroyable avec l'affaire Roswell, c'est que plus on a de témoignages, plus on a de documents, on voit que ça tourne autour du 4 juillet, c'est-à-dire une dépense d'aide. C'est extraordinaire, parce que ça soit passé le jour de l'indépendance américaine, c'est pire qu'une provocation pour moi. Je pense que c'est quelque chose, peu importe la personne qui a fait cette opération, si tout cela s'avère vrai, parce qu'on a toujours un petit doute. L'affaire Roswell, c'est à la fois l'affaire la moins crédible, parce qu'on a lu tellement de choses, on a vu cette autopsie, cette grossière autopsie qui a été promue par un certain Ray Santilli, businessman de son état, businessman londonien, qui ne connaissait rien en ufologie, qui ne savait même pas ce que c'était que les objets volants non identifiés. Il nous a vendu ça et tout le monde a un petit peu mordu à l'hameçon. Enfin, pas tout le monde, mais enfin en VSD aussi. Hein. VSD en a fait la couverture en 1995.
C'est une autopsie qu'on a un peu perdu de vue depuis l'époque. Ouais.
Je crois que l'autopsie a été un petit peu le rideau pour cacher le reste. Le reste est intéressant.
Alors justement, allez, on s'y attarde. Roswell, ouais. Il s'est passé quoi exactement dans cette base?
Eh bien, un beau matin, un fermier du nom de Mac Brazel, on peut dire que c'est, on peut dire à peu près le 5 juillet. 5 juillet, c'est-à-dire, c'était un samedi, c'était après un grand orage. C'était un grand orage, alors. Il y a eu des éclairs, c'est vrai, fermier Mac Brazel, il fait ça. C'est un éleveur de moutons. Et puis il vient, il va faire sa reconnaissance matinale. Et puis, qu'est-ce qu'il trouve ? Il découvre une grande étendue de débris sur les terres dont il a la responsabilité, aux environs de Corona, c'est tout près de la ville de Roswell. C'est à peu près à l'ordre de... Alors, à l'échelle américaine, c'est une cinquantaine de kilomètres, grosso modo, hein. Mais c'est pas grand-chose. Hein, et à 5 kilomètres de là, c'est vrai que trouver des débris bizarres. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle le shérif. Le shérif appelle la base aérienne. Et puis toute l'affaire commence comme ça. Et puis on termine par on a récupéré un disque volant, communiqué officiel, signé William Blanchard.
Voilà, premier communiqué. On a récupéré un disque volant.
Voilà. Alors là. C'est la folie, parce que non seulement les gens les voient, maintenant, on a récupéré une épave. Alors là, ça devient
physique, on peut toucher.
Voilà, c'est-à-dire que là, on a la preuve. Avant, on ne savait pas ce que c'était. Là, maintenant, on a une preuve qui est... on ne sait pas. Alors, tout le monde entier est en haleine. Et quand je dis le monde entier, c'est que c'est pas uniquement les États-Unis qui appellent la base, cette base, parce que c'est au Nouveau-Mexique, Roswell. C'est un coin paumé, en plein milieu du désert. Il faut y avoir été pour savoir ce que c'est. Moi, j'y suis allé. Et je peux te dire que, vraiment, je j'aimerais pas être là-bas. Hein. C'est loin de tout, de tout, de tout. Il n'y a rien. Pendant des kilomètres et des kilomètres, il n'y a pas une station d'essence, il n'y a pas un village. Il ne faut pas tomber en panne d'essence là-bas. Hein. Et c'est terrible. Et moi, j'ai vécu des anecdotes assez croustillantes, qui ont bien failli d'ailleurs. Si j'avais pas eu un routier pour venir me dépanner, j'étais très mal. Donc je peux dire que Roswell, c'est vraiment pas le bout du monde, mais c'est vraiment en plein désert. Et là, quand on est tout seul en plein désert, alors moi j'imagine ce fermier qui retrouve tout un champ de débris. C'est quoi ? C'est une fusée V2 qu'on m'a balancée dans mon champ. Alors, évidemment, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que c'est quand même un terrain privé. C'est quand même... c'est quand même bizarre. Et puis, ce colonel qui ose, qu'on connaît la hiérarchie militaire, je veux dire, et de voir ce colonel qui dit, ben voilà, on a récupéré un disque volant. Non, mais soit il a complètement disjoncté, soit il a eu des ordres de son état-major, mais en aucun cas il a pris l'initiative d'annoncer ça. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont tout de suite, en retour, eu des coups de téléphone du monde entier. C'était pas uniquement les États-Unis, ça venait du monde entier. Alors effectivement, si c'était une opération, ça commençait à prendre corps. Et à mon avis, les espoirs qu'on avait au départ peut-être de faire une opération de relations publiques commençaient à devenir dangereusement énormes, gigantesques et incontrôlables. Alors tout de suite, ce qui s'est passé, démenti total. Opération de presse, on convoque la presse.
Combien de temps après ?
Quelques heures. Mm-hmm. On convoque la presse à Dallas, et pas n'importe qui, puisque c'est le général Ramey, qui était en fait le supérieur de Blanchard, et qui expose des débris, il dit, mais il n'y a pas de soucoupe volante. C'est un ballon sonde, regardez. Ils exposent les débris. Une opération extraordinaire. On fait venir deux photographes, je crois. On fait venir un spécialiste des ballons météo. Et puis, toute l'affaire s'éteint. D'un seul coup. On dit voilà, c'est un balançon. Comme si les militaires américains
n'étaient pas capables de faire la différence.
Voilà, ils ne savaient pas reconnaître une soucoupe volante, ou un disque volant, ou un engin bizarre, ou une fusée d'un ballon. Et là, on présente vraiment la version du balançon, puis tout s'éteint. Comme ça, comme par enchantement, l'affaire Roswell retombe comme
un ballon sonde.
Ouais, j'oserais dire presque, il y a une chape de plomb qui retombe sur l'affaire Roswell, et puis finalement, comme il y a une bonne explication, tout le monde est rassuré.
Bah oui, évidemment.
Parce que c'était pas à cause de ça. On était en train de foutre la panique. Et à quelques, je crois qu'il y a une heure ou deux, tu passais la guerre des mondes.
Alors oui, c'est ça. Voilà. Serait-ce, on ne peut que faire une hypothèse, mais serait-ce à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a vu la panique et surtout le ramdam, si on peut dire ça, que ça crée dans le monde entier qu'un objet non identifié soit tombé, est-ce à partir de ce moment-là qu'on a décidé de cacher au public les prochaines découvertes, s'il y en avait, et d'ailleurs, on ne peut pas le savoir vu que c'est caché.
Peu importe, je dirais, ce qui a forcé les officiers et les politiques. Je pense que les militaires en avaient étaient aussi embêtés que les politiques dans cette histoire-là. Et je parle pas des scientifiques également. Lorsqu'on s'est retrouvé avec cette affaire, on savait pertinemment que c'était une boîte de Pandore, qu'on ne pouvait pas faire un aller-retour, que si on ouvrait la porte, ou que si on ouvrait la boîte, on ne pourrait peut-être pas la refermer aussi facilement. Donc il y avait, peut-être une espèce de timidité, mais je crois que c'est surtout, ils ont eu peur que l'affaire leur échappe. Et que finalement, ça dérive vers une panique générale. Donc, on peut imaginer que si les Américains ont réellement récupéré quelque chose, ils ont fait vite marche arrière. Soit parce que l'affaire qu'ils avaient déterrée, si je puis dire, peut-être ont-ils fait preuve d'une très grande honnêteté par ce communiqué de presse, ou alors il y avait autre chose de plus terrible et on s'est servi du prétexte du disque volant pour dire finalement, tiens, on a récupéré une soucoupe volante, alors que finalement, c'était peut-être passé autre chose.
Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de corps pour Roswell? Moi, quand on parle de Roswell, on parle de corps retrouvé, de... C'est quoi ça?
C'est
du mythe populaire?
C'est venu bien après. Ce sont des témoignages. En fait, l'histoire des corps a commencé à être mentionnée par un certain Frank Scully. Paul Scully des X-Files. D'ailleurs, Chris Carter a pris modèle, c'est un clin d'œil à Frank Scully. Dana Scully n'a rien à voir avec Frank Scully, mais Frank Scully était lui un écrivain et un journaliste. Et il a écrit un bouquin qui était véritablement, je dirais, à l'époque, qui avait fait sensation. C'était un livre qui s'intitulait Behind the Flying Saucers, c'est-à-dire derrière les soucoupes volantes, qu'est-ce qui se cachait derrière les soucoupes volantes. Donc il a sorti ce livre en 1950 et c'est lui qui a le premier parlé de corps, d'êtres venus d'ailleurs qui ont été récupérés par l'armée. Donc c'était vraiment le tout début de l'affaire. Et après, eh bien après, on a eu des témoignages, on a eu des gens qui, enfin, toute le cirque habituel, quoi. Et c'est vrai qu'on a eu des gens. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont... Mais quand même, il y a pas de fumée sans feu. Donc je pense que moi personnellement, je ne crois pas qu'ils aient récupéré de corps. En revanche, il s'est passé quelque chose à Roswell. Indiscutablement.
Pourquoi se pose-t-on encore des questions sur Roswell?
Parce que c'est... Dès qu'on parle de Roswell, il y a des gens qui savent. Ces gens qui savent réagissent de la manière suivante, c'est-à-dire qu'ils sont gênés, presque paniqués, l'air de dire, attendez, vous êtes en train de parler d'une affaire, alors on ridiculise. Si on commence à creuser un peu derrière cette chape de plomb, là, on arrive à obtenir une réaction bizarre. Alors évidemment, on a ce rapport de l'US Air Force qui est édifiant. Faut quand même pas oublier qu'en 1994, il y a eu une enquête qui a été dépêchée par un sénateur du Nouveau-Mexique qui n'avait même pas pour but de faire une opération médiatique. Il dit, moi, je comprends pas dans cette histoire de Roswell, moi je suis... Stephen Schiff, qui était le gouverneur du Nouveau-Mexique, Albuquerque, dire, mais je comprends pas. Qu'est-ce que c'est. Tout le monde me rabat les oreilles avec cette histoire. Et vous, le contribuable doit savoir où sont ses archives. Alors, il déclenche une opération. Qu'est-ce qu'il déclenche? Il déclenche effectivement quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'il fait fonctionner l'administration américaine. L'armée de l'air américaine, l'US Air Force, qui avait tant fait pour essayer d'enterrer cette affaire, revoyait ce fameux dossier Roswell revenir en plein à la figure.
Oui, justement, je me demandais quelle était l'administration qui détenait ces dossiers, qui avait classé en quelque sorte ces dossiers. C'est quoi? Ça venait de Washington? C'était l'US Air Force? C'était qui exactement? C'était un organisme privé?
Ce sont des archives nationales. Normalement, on aurait dû les retrouver aux archives nationales. On n'a rien retrouvé. Les archives concernant ce fameux groupement 509 de Roswell, il n'y a jamais eu d'archives qui ont fait état de récupération de disques, sauf un document qui est assez intéressant, parce qu'il y a eu, il y avait les dossiers du FBI, cela on n'avait pas entendu parler, il y a une page, il y a 1600 pages. Qui avait été dévoilé en, je crois que c'était en 96, ont été divulgués par l'FBI, parce que l'FBI avait enquêté dès le début sur les objets volants non identifiés, parce qu'on pouvait penser que c'était d'éventuels adversaires, d'éventuels ennemis de l'Amérique, et donc on avait effectivement fait appel au contre-espionnage. Le contre-espionnage, c'était le FBI. Et donc, il y a une page, effectivement, où on parle de récupération d'épaves de disques volants. Et là, on a quand même une trace. Alors, là encore, on se pose des questions. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi cette affaire Roswell? Et à l'heure actuelle, on en est toujours à la recherche. A essayé de trouver la faille. Alors, il y a eu le ballon Bogoul. Alors, le ballon Bogoul, c'était loin d'être secret, parce que, apparemment, d'après les pages du FBI, qui avaient été dévoilées, qui ont été livrées au public il y a quelques années, qu'on ignorait d'ailleurs à l'époque, hein, bien sûr. Au bout de 40 ans, on a donné la possibilité au public d'avoir connaissance de ces documents. Eh bien, une page du FBI fait état d'une épave qui aurait été récupérée, peut-être même de plusieurs épaves. Mais ce qui est bizarre, c'est encore la concordance des dates, 47-48. Ça, c'est quand même bizarre.
Alors, pour en finir avec ce dossier Roswell, après on aura fait le tour, parce qu'on a tellement d'autres choses, tellement d'autres choses à dire. Le commandant qui était revenu sur ses dires, commandant colonel, je ne me rappelle plus exactement.
Colonel Blanchard,
qui était revenu sur ses dires. Effectivement, c'est un ballon, c'est une sonde météorologique, je l'affirme, je me suis trompé au début. Il est revenu en quelque sorte sur ses dires, sur ce qu'il avait dit.
Ah ben on lui a même pas laissé le.
Voilà. Et il y a quelques années.
Le loisir de le faire, c'est le général qui l'a fait à sa place.
Et il y a quelques années, est-ce qu'il n'aurait pas dit non, on m'a trompé. Effectivement, ce que j'ai vu ce jour-là, ce n'était pas du tout des restes de ballons sonde.
Oui, seulement le problème, tu vois, je vais te dire. On aurait pu dire à Blanchard, écoutez maintenant, allez jouer dehors, hein, vous n'êtes pas un officier responsable et on vous vire. Et en fait, le colonel Blanchard a eu une carrière absolument prestigieuse. Il a terminé sa carrière, malheureusement prématurément, en 1966, en tant que chef d'état-major adjoint de l'US Air Force. Donc si ce type-là avait disjoncté, je ne pense pas qu'il aurait terminé sa vie au Pentagone, ça c'est clair. Je crois pas que les Américains s'affectionnent particulièrement des gars qui pètent les plombs. Ça m'étonnerait. Hein, les responsabilités sont trop grandes. Et ce qui est bizarre dans cette histoire de Roswell, c'est que tous les gars qui ont été impliqués dans l'affaire Roswell ont tous eu une carrière prestigieuse. Tous, sans aucune exception.
Comme quoi, le Nouveau-Mexique, c'est peut-être un petit peu éloigné, mais en tout cas, c'est bon pour la carrière quand on est militaire.
Ouais, puis peut-être s'occuper des soucoupes volantes aussi.
Radio ici maintenant, 95.2, nous interrompons ici la rediffusion de l'émission de mardi soir dernier. Nous retrouverons mardi soir prochain une nouvelle émission consacrée aux ovnis. Pour l'instant, retour au direct avec un nouveau rendez-vous sur Radio ici maintenant, Radio in English, émission réalisée en anglais comme son nom l'indique, diffusée le dimanche de 16h à 17h30 et chaque matin de 6h à 7h.
The following dialogue will be read with pauses for repetition.
You have connected.
This is David Appleton.
With Radio in English.
Frankly speaking, a half hour of engaging interviews with writers, poets, artists, actors, and cultural figures just waiting to meet you. Welcome to Frankly Speaking. My program today features Bedri Baykam, the Turkish painter, political activist, cultural provocateur, and author of the best-selling novel The Bone, Kemik, which has been banned by the Turkish government for attacking the morals of society.
Radio in English.